Hole. Ha ho. Hey ho. Ha hey ho. Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Amérindien. Portrait. Lutte et reconnaissance. Nous continuons le troisième volet de Rêveur de tonnerre de Maurice Rebex. Après l'introduction et la préface, suite de Attrapeur d'ombre chez les rêveurs de tonnerre. Aho! Au milieu du 19e siècle, une technique d'enregistrement par l'image apparaît. Tandis que la société traditionnelle du natif d'Amérique s'apprête, elle, à disparaître. La rencontre des deux va sceller un moment unique de leur destin respectif. Technologie du souvenir. La photographie apprend à se souvenir d'un monde qui sera bientôt balayé par la technologie. Instrument de la civilisation en marche, elle se prend d'une passion jamais démentie pour le dernier sauvage. Créant autour de la figure de l'Indien une iconographie de la nostalgie qui nous fascine autant qu'elle le désincarne. À elle seule, l'œuvre d'Edward Sheriff Curtis, appelée à se prolonger jusqu'au début des années 20, semble résumer ce moment, cette rencontre. Universellement appréciées, ces photographies possèdent quelque chose de la beauté des rêves. À l'époque où il les réalise, elles sont déjà de la reproduction. D'un mode de vie qui s'évanouit sous ses yeux et qu'il sait magnifier. Idéalisé même. Et s'il est vrai que les images de Curtis nous parlent de sa façon de percevoir le monde indien autant que de la réalité de celui-ci, elles véhiculent aussi la ferveur d'un auteur pour son sujet. Une ferveur qui ne le quitta pas durant les 30 années qu'il consacra aux Indiens. Là, sans doute, réside le secret du formidable impact de son œuvre. Curtis voulut saisir les derniers soubresauts d'une période finissante, quitte à la réinventer parfois. Au moins chercha-t-il à montrer l'Indien vivant, contemporain de son époque. Du coup, n'utiliser que ses seules photographies, vieilles d'un siècle, pour parler aujourd'hui des Indiens, comme le font encore assez paresseusement revues et magazines, c'est paradoxalement trahir le propos même de leur auteur. Consciemment ou inconsciemment, c'est se satisfaire de l'image d'un Indien du passé, d'un Indien disparu pour de bon et à jamais. Viennent alors à l'esprit les sinistres paroles du général Sheridan. Les seuls Indiens bons que j'ai jamais vus étaient morts. Des paroles qui nous poussent à nous demander si l'horrible formule n'était pas devenue une forme de vérité culturelle. Si elle ne s'appliquait pas à notre façon de regarder les Indiens, si elle ne résumait pas pathétiquement nos goûts, nos préférences en la matière. Certes, les fiers personnages de Curtis ont souvent plus d'allure, plus d'apparente noblesse que certaines silhouettes titubantes, croisées dans la misère extrême qui frappe les réserves indiennes de l'Amérique du XXIe siècle. Mais en nous laissant hypnotiser par les images du passé, en nous enivrant de nostalgie pour un monde englouti, Ne révélons-nous pas une incurable propension à appréhender l'autre au gré de nos fantasmes, plutôt que de nous appliquer à l'observer simplement, tel qu'il est, consciemment ou non? Ce refus de se confronter au réel s'explique peut-être par le fait qu'observer l'Indien aujourd'hui, dans la condition où il vit, c'est accepter de le voir comme nous l'avons forcé à vivre, après lui avoir imposé de se plier à notre propre histoire. Pas besoin de chercher à se dédouaner ici, en se démarquant des méchants colons de là-bas, car, même si l'on n'en a guère l'habitude, il faut se faire à cette idée. Europe ou Amérique, du point de vue indien, c'est le même monde, le même système. Le monde est le système de l'homme blanc. Oh. Aujourd'hui, l'Indien d'Amérique ne se présente plus à nous dans l'intégrité d'une identité profonde que rien n'aurait altérée. Non. Comme d'autres représentants des peuples premiers de la planète, il nous offre plutôt le reflet de celui qu'il est devenu, après qu'on a tout tenté pour le faire disparaître, pour le soumettre et pour l'assujettir. Et ce jeu de miroir renvoie une image dont la civilisation a peu de raisons d'être fière. L'image d'un crime contre l'humain, d'une honte historique indélébile. Sur ces deux pages premières, il y a deux photos. Une de Florentine Blue Thunder, Tonnerre Bleu, avec le portrait de sa grand-mère, Katie Rubido Blue Thunder, pris en 1898. Ainsi que la photo d'une statue d'un brave aux mains liées dans le dos à Rapid City, une œuvre de Glenna Goodacre. Les images de ce livre donnent à voir des Indiens de notre temps, de notre voisinage, à ceux qui ne peuvent s'empêcher de s'interroger ingénument. Mais y a-t-il donc encore de vrais Indiens? Elles se veulent une réponse définitive. Évoquer même naïvement les vrais Indiens, c'est en effet pratiquer l'offense. Vous-même, que diriez-vous si, après avoir tout mis en œuvre pour vous priver de votre identité, pour l'éradiquer en vous, on venait vous reprocher de ne pas en être un représentant assez authentique? Vrais Indiens, faux peaux-rouges? L'habitant de cette terra incognita, celui qui, à l'inverse, découvrit Christophe Colomb sur une plage et dans le piteux état qu'on sait, a de tout temps été réduit au stéréotype, victime des clichés. Dans toute l'acceptation du terme. Tantôt sauvage fourbe, tantôt héros stoïque, il n'a jamais pu être simplement lui-même. C'est-à-dire, au bout du compte, pas si différent des autres. On repense à l'ami Archie Fire Lamdir, chef Lakota, arrivant dans les Pays-Bas des années 70, qui, réalisant le trouble de ses hôtes, déçu de ne pas le voir débarquer porteur d'une coiffe de plumes et d'une veste à franges, leur rétorqua que lui-même était déçu de ne pas les trouver chaussés de sabots de bois. Oh! En matière d'image, Deux approches semblent aujourd'hui largement dominer notre perception de l'indianité. L'une, d'ordre sentimental, sorte de mélancolie compassionnelle, est dorénavant véhiculée par un Hollywood qui s'inflige la repentance après des décennies d'un racisme exubérant. Se sentant sans doute coupable face au constat de l'irrémédiable destruction, on dresse de l'Indien un portrait aussi réducteur que factice. Celui d'un personnage immuable, figé dans le temps. À la fois noble et archaïque, sympathique et désuet, plein de grandeur, mais décidément inapte au progrès. Plumes, chevaux, tipis, vêtements colorés, mystique simpliste, sagesse mièvre et sentencieuse, deviennent alors des attributs indispensables. L'Indien est séduisant, pittoresque, exotique. Plus que tout, il demeure un étranger dans son propre pays. Nul besoin de chercher à le comprendre. On l'admire. Nul besoin de voir en lui un proche. Il est de pur mythe. L'autre approche est celle d'un réalisme social qui prétend nous montrer sans ambages les choses telles qu'elles sont. Du coup, on appuie avec une insistance souvent malsaine là où ça fait mal, sur la misère, le déclin. De l'Indien, on choisit de nous montrer un univers sombre, où rien ne semble sourire, où aucun futur, aucun espoir n'apparaît. Dans cette quête de vérité vraie, le cruel souci du sensationnel ne met pas bien longtemps à faire surface. Puisque la misère aussi se monnaie, c'est en échange de quelques malheureux billets qui étancheront sa soif pour un moment qu'un Indien de rencontre, épuisé d'ivresse et de désespoir, acceptera de livrer l'image de sa déchéance. À l'autre bout de la chaîne, cette même image, qualifiée de document, concourra aux riches heures de ceux à qui on ne la fait pas. Et qui prétendront nous montrer la réalité après avoir marchandé l'image qu'ils avaient décidé de s'en faire. Nous avons ici une photo de guerrier Atsina, une photo de Curtis, In the North American Indian, de 1909. Ainsi en est-il dit. En photographie, où se niche donc la vérité? Dans ce qu'observe le photographe ou au fond même de son œil? Pour en revenir à Curtis, on découvre parfois assez plaisamment des arrangements, des subterfuges, derrière certaines scènes qu'il photographia. Ainsi, sur une photo de groupe où des cavaliers Atsina forment le cercle, impavide et fier. On réalise, à y regarder de plus près, que les plumes qu'ils portent, ainsi que celles qui sont attachées à l'extrémité de leur lance, partent à l'horizontale. Les queues des chevaux, elles aussi, sont soulevées dans la même direction. Et l'on aperçoit alors les grimaces que font certains des cavaliers pour résister à la violence du vent. Nul doute qu'après la prise de vue, tout ce beau monde est retourné se mettre à l'abri, heureux d'en avoir fini avec une séance de pause, pour le moins inconfortable. De ce point de vue, les choses n'ont peut-être pas tout à fait changé. Et même si la grande majorité des photographies présentées dans ce livre ont été saisies sur le vif, il serait malvenu de ne pas reconnaître que, à quelques occasions, la situation fut un peu aidée pour profiter d'une meilleure lumière ou d'un arrière-plan jugé plus opportun, par exemple. C'est ainsi, il n'y a pas d'échappatoire. La photographie parle toujours de celui qui la prend, autant de ce qui est photographié. L'important est sans doute simplement de le reconnaître.
Hey, ho, ho. Ah,
Let that name be on my lips, Wakantanka, rather than drugs and alcohol. Ainsi, que ton nom soit sur mes lèvres, Wakantanka, plutôt que drogue et alcool. Voici ce qui est écrit sur un panneau dans la rue principale de Saint Francis à Rosebud. Cette photographie montre bien l'ampleur des dégâts que l'alcool et les drogues font subir aux Indiens et leur lutte pour se souvenir et garder le lien, coûte que coûte, avec leur spiritualité. Les Lakota expriment dans un dicton la différence profonde qu'ils perçoivent entre l'obédience à un dogme religieux, tel celui des grands monothéismes, et l'adhésion à une spiritualité animiste comme la leur. Us, Indians, we don't believe, we feel. Nous, les Indiens, nous ne croyons pas, nous sentons. En cherchant à sentir les choses d'un point de vue proche du leur, on peut s'interroger sur la photographie. Saurait-elle saisir de la réalité une part d'âme, en capturer l'esprit? L'esprit des lieux et des gens, d'abord fixé sur la pellicule, et qui nous traverserait ensuite comme autant d'émotions et de sentiments diffus, alors que nous en scrutons l'image. Serait-ce pure superstition que d'envisager de telles choses? Mais si le dictionnaire dit vrai en désignant comme superstitieux celui qui voit des signes favorables ou néfastes dans certains faits, qui donc alors échappe à cette définition? Pas l'Indien en tout cas, dont l'existence est tout entière imprégnée des signes qu'il reçoit et des messages qu'il perçoit dans ces signes. Le monde spirituel, Lakota, est un monde de signes, de présages. Le grand esprit, créateur de toutes choses, y porte le nom de Wakantanka, littéralement sacré grand. Or, par essence, tout ce qui pour les Lakota est Wakan, c'est-à-dire sacré, et mystérieux tout aussi bien. Ainsi, Wakantanka, celui que nous appelons Dieu, demeure avant tout le grand mystère. En approchant du monde où règne ce mystère, le photographe que j'étais entendit fréquemment évoquer Chante Ishta, l'œil du cœur. Chante Ishta, le seul œil, me dit-on, par lequel on puisse discerner la présence des esprits. Le seul grâce auquel on parvienne à saisir les événements mystérieux de la nature. L'homme médecine Lakota Leonard Crodog aime à répéter: ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Paraphrasant sans le savoir Antoine de Saint-Exupéry, pour qui, on s'en souvient, l'essentiel est invisible pour les yeux. Vérité qu'un photographe peut méditer sa vie durant, cherchant où se cache l'invisible dans ses images et ce qu'elles peuvent bien contenir d'essentiel. Lors de mes premiers contacts avec les Lakota, je croyais être un photographe chez les Indiens. C'était le point de vue du néophyte. Au fil des ans, j'allais comprendre, mieux, j'allais éprouver à quel point ma présence parmi eux était perçue comme celle d'un attrapeur d'ombre, parmi les rêveurs de tonnerre. Sans doute cette présence a-t-elle constitué elle aussi à sa façon un signe. Je le conçois maintenant avec plus d'acuité. Comment les Lakota, perdus dans des coins reculés des réserves lointaines, auraient-ils pu percevoir autrement la rencontre improbable avec un photographe, étranger de surcroît, et même venu de France, c'est-à-dire voyageant sur les traces des premiers blancs jamais rencontrés par leurs ancêtres? Ce nom de Sioux, que certains d'entre eux d'ailleurs exècrent, les Lakota en furent en effet affublés par des trappeurs français qui contractaient ainsi le terme Nadowethiwug, expression peu amène dans la langue des Chippewas qui signifie petit serpent. En 1600, ce furent deux Français, Pierre Esprit Radisson et Jean-Baptiste des Grosseliers, qui entrèrent les premiers en relation avec une population encore partiellement composée de planteurs de maïs. En 1700, alors que les Lakota ont entamé leur migration vers l'ouest et accru leur empathie désormais légendaire avec le bison, Pierre-Charles Le Sueur, négociant en fourrure, renoue le contact avec eux au cœur de ce qui constitue aujourd'hui l'État du Minnesota. Et c'est le 9 avril 1743 que Gaultier de la Vérendrye et son frère retrouvent les Lakota sur le territoire actuel du Dakota du Sud, les nommant Jean de la Flèche Collée ou Sioux de la Prairie. Quelques années plus tard, alors que l'invasion des Blancs ne cesse de s'étendre, c'est un autre Français, le trappeur Jean-Baptiste Truteau, qui le premier décrira la peur que ces mêmes Sioux, désormais armés de fusils et exaltant les valeurs guerrières, commencent à répandre autour d'eux. Nous sommes en 1794. L'horizon des peaux rouges commence à s'obscurcir dangereusement. De tous ces contacts remontant aux premiers coureurs des bois, des débuts de la colonisation, il est resté des descendants et des patronymes ainsi largement répandus. Voyageant chez les Lakota, j'ai ainsi rencontré nombre de Bordeaux, Roubido, Deschenaux, Douville ou Lambert, tous curieux de leur histoire familiale, de l'origine de leur nom et de sa signification. Il me fallut ainsi attendre d'être chez les Indiens pour réaliser, assez naïvement, que Bordeaux, dont on me demandait de traduire le sens, signifie « qui vit au bord de l'eau ». Un nom bien indien, en somme. Léonard Pelletier, lui-même, rencontré au pénitencier de Leavenworth, allait faire preuve d'un vif intérêt pour son héritage français, pour cet ancêtre tanneur de peau, ce pelletier dont il descend. Militant résolu de la cause indienne, ce Lakota, qui du fond de sa cellule lutte toujours farouchement pour les droits de son peuple, après plus de 26 ans d'un emprisonnement inique, dans le déni absolu de toute justice, allait devant moi revendiquer ouvertement son métissage, sa part d'homme blanc, comme une richesse supplémentaire. Parlant de la fierté qu'il éprouvait pour cette composante, cette part de ses origines, il évoquerait même en souriant son désir de visiter la France, un jour, prochain espérons-le. Cependant, s'il est vrai que, touriste venu de France, nous pouvons volontiers, et plus que d'autres blancs peut-être, susciter l'intérêt des Lakota, c'est d'abord parce que la généalogie et les liens du sang sont pour eux d'une importance capitale. Ne nous leurrons pas pour autant. Il y eut bel et bien des Français pour prendre part au massacre du passé, au viol et aux rapines. Et certains d'entre eux furent, à n'en pas douter, de peu recommandables pourvoyeurs d'eau de feu. Quoi qu'il en soit, mon amie Jane Ironshell irait un jour jusqu'à me demander de dire quelques mots de ma langue natale sur la tombe de son grand-père, un certain monsieur Dubray, venu du Poitou. Là aussi, à n'en pas douter, ma présence constituait à ses yeux un rappel du passé, une occasion, un signe. Devant cette omnipotence des signes au sein de leur culture et de leur société, on m'avait à l'avance prévenu, les Sioux, et plus particulièrement les anciens, ne vous laisseront jamais les prendre en photo. C'était là propos de spécialistes, c'est-à-dire, comme souvent, d'individus plus soucieux de préserver leur précaré que de partager leur supposée passion. En matière de prise de vue, acceptera, n'acceptera pas. La vérité, j'allais le découvrir, tenait autant. Ce fameux Indian Time, le temps indien, qui, sur les réserves, justifie toutes les attentes, tous les délais, tous les retards et tous les changements de programme. Une forme de ponctualité très relative, donc, et dont la pratique permanente constitue une terrible médecine pour l'homme blanc et l'impatience qui le caractérise. Rêveur de tonnerre de Maurice Rebex. Prochaine émission. Suite. C'était Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.
Power. Power. A hole.